Eh bien, deuxième partie de cette émission, elle va être consacrée entièrement à un événement que j'ai vécu la semaine dernière durant une super journée. Et c'est une triennale d'art contemporain à Dunkerque, donc menée par le FRAC Grand Large et le LAC Musée donc, de Dunkerque. Un parcours d'exposition chaleur humaine, donc c'est le thème, et donc décliné évidemment avec les questions actuelles sur l'environnement, sur le climat, voilà. Donc trois lieux, hein. Donc il y a aussi en plus des deux premiers lieux la salle AP2, la halle AP2. Et donc on va découvrir à la fois les deux responsables du FRAC et du LAC, et puis aussi deux artistes que j'ai retrouvés là-bas. Tout à fait passionnant, donc déjà un duo d'artistes, Alexis Costeux et Mathurin Vanneg, avec une forêt sonore qu'ils ont présentée au FRAC, dans le FRAC Grand Large. Donc tout un espace habité par une forêt, avec des orgues et des tuyaux partout, etc. Et donc qui pouvaient être joués donc sur place par ces artistes, ou pas forcément par les artistes. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec eux tout à l'heure. Et puis j'ai rencontré aussi une artiste vidéaste qui s'appelle Eden Tinto Collins. Un très beau moment également à découvrir son travail. Et donc une interview qui vous attend dans un moment, puisque cette émission se terminera à 18h et qu'à 18h, eh bien, on aura eu l'occasion d'écouter donc ces quatre sujets dans le reportage sur Dunkerque et cette exposition qui va durer jusqu'en janvier et qui s'appelle donc donc Chaleur humaine, c'est le titre général, mais comme je vous dis, c'est pas seulement c'est le monde en question et notamment tout ce qui est problématique environnementale. Donc, 6 mois pour présenter ces sujets-là, ce n'est finalement pas trop en termes de réflexion. Et pour l'action, ben, j'espère que ça va suivre Campus 106.6 FM. Donc, on va passer un petit peu de musique et on se retrouve avec le premier de ces reportages réalisés la semaine dernière à Dunkerque. Alors, à Dunkerque, il y a deux musées. Il y a le Musée des Beaux-Arts et le LAC, donc Musée d'Art Contemporain. Et donc, Sophie Harlop est la directrice de ces deux musées. Et donc, bien sûr, elle intervient pour la partie Art Contemporain dans le cadre de cet événement qui va durer pendant 6 mois. On va l'écouter dans quelques instants.
Bien, donc je m'appelle Sophie Warlop, je suis directrice des musées de Dunkerque, donc Musée des Beaux-Arts et LAC.
Donc ces deux musées sont, on va dire, mariés à vie.
Oui, c'est ça. Alors c'est la même direction des musées, les mêmes équipes et deux projets évidemment totalement différents.
Donc aujourd'hui et dans les mois qui viennent, hein, on a un projet collectif intense, assez immense.
Oui, alors il s'agit d'un projet qui est mené avec le FRAC Grand Large Hauts-de-France. À Dunkerque, il y a la particularité d'avoir deux lieux d'art contemporain importants qui sont voisins, à 500 mètres l'un de l'autre. Et depuis quelques années, on collabore sur des projets artistiques de grande envergure qui permettent de donner une visibilité à l'art contemporain sur ce territoire.
Alors quand on dit art contemporain, on se pose la question, c'est quoi contemporain? Et pour vous, ici, comment vous avez constitué vos collections, à partir de quoi, même de qui?
Alors, l'histoire du LAC, elle est tout à fait particulière parce qu'elle est liée à un collectionneur. Alors, c'est pas un collectionneur qui avait une fortune personnelle, au contraire, c'est quelqu'un qui a fondé une association. Il était ingénieur à la DDE et il a fondé une association parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas assez d'art contemporain à Dunkerque, que quand il est arrivé dans les années 70 sur ce territoire, il s'est rendu compte de la modernité de la ville, de la modernité des industries. Et puis, le musée des Beaux-Arts s'arrêtait au 19e siècle. Dux, qui était un scandale pour lui. La marine à voile, c'était évidemment pas du tout à l'image de cette ville. Il a décidé de créer une collection en partant ex nihilo, mais au lieu de s'appuyer sur des institutions publiques, il a fait le choix de s'appuyer sur le mécénat industriel en allant chercher les entreprises du territoire et constituer de toutes pièces une collection, en allant voir aussi directement les artistes sans passer par des intermédiaires, les galeristes, etc., et choisir les œuvres directement avec eux.
On peut citer quelques artistes symboliques ?
Alors, des artistes symboliques, ben, bien sûr, César, Armand, Warhol, par exemple, Liquide Saint-Phal, sont des artistes dont il a été très très proche, mais également des artistes abstraits. Dans la région, il y a Georges Mathieu, qui est évidemment bien connu, mais il y a Soulages, qu'il a connu également, enfin, toute la génération des artistes des années 60, 70, 80.
Alors, c'est vrai qu'on peut parler, bien sûr, des œuvres qui sont ici intégrées à ce musée, LAC. On pourrait peut-être aussi parler des jardins extraordinaires.
Oui, alors effectivement, on a 3 hectares de jardin et c'est ce jardin, qui est un espace public ouvert jour et nuit, contient un certain nombre d'œuvres monumentales. Pour certaines, elles ont été mises en place dans les années 80, donc c'est-à-dire juste au moment de l'ouverture de ce lieu, mais on continue à enrichir ce jardin. Et là, cette année, avec la Triennale, on vient de créer un nouveau chemin pour aller vers une nouvelle œuvre. Et ça, c'est particulièrement intéressant et chouette pour le passant que de découvrir autrement ce lieu.
Voilà, donc c'était conçu par, on va dire, le mécène, si on peut dire ça, dès le départ, d'avoir un jardin, et notamment avec ces nénuphars, je ne sais pas, il y a même des lotus, j'ai eu l'impression de découvrir. On est chez Monet ici ?
Alors oui, on n'est pas chez Monet en réalité, c'est vraiment un jardin contemporain très minéral, qui a été pensé et surtout mis en forme d'une manière assez contemporaine, en étant, j'allais dire, précurseur, puisque par exemple, vous avez des grandes buttes qui ont été façonnées, qui rappellent un peu les dunes, mais qui sont laissées avec une prairie haute, avec un fauchage uniquement sur les bandes, etc. Donc on laisse place à une nature, mais en réalité une nature qui a été complètement conçu, complètement fabriqué par l'homme. Le plan d'eau est fabriqué, les buttes sont fabriquées et tout ça a l'air totalement naturel et intégré.
Donc cette exposition démarre, on va dire, en juin, elle va se poursuivre jusqu'au
14 janvier 2024.
Et donc je pense que initier cette exposition à un moment où les jardins sont magnifiques, et particulièrement les plans d'eau avec ce que je disais, etc. C'est un grand moment.
Oui, alors c'est un grand moment parce qu'effectivement, à cette, on va dire, belle saison, le littoral accueille énormément. C'est une manière de rentrer, du coup, sur ce territoire par l'art, par une sensibilisation à la nature. Et le discours aussi qui est tenu dans cette exposition Chaleur humaine est aussi un discours qui sensibilise au changement du climat, au rapport à l'énergie depuis les années 70. Et ce panorama est également une forme de sensibilisation au monde qui nous environne.
Alors c'est vrai que ce monde a changé déjà depuis que je suis né, il y a longtemps. Et donc on est passé d'une ère de la consommation consumériste à une ère peut-être de réflexion sur la ressource et notamment l'énergie.
Oui, l'énergie, c'est le sujet principal. Mais dans la manière dont il est traité dans cette exposition, c'est un sujet extrêmement ouvert. On a évidemment la consommation énergétique de chacun, les ressources, le charbon, le pétrole, l'électricité, etc. Mais l'énergie, on recentre ce discours sur l'énergie, également en parlant de l'énergie humaine, la ressource humaine, la ressource de la nature, les énergies des plantes. Cette exposition qui est proposée et mise en œuvre par Camille Richer et Anna Collin nous met aussi dans des nouvelles perspectives. Elle permet d'avoir des regards parfois un peu décalés sur ce qu'est l'énergie, où aujourd'hui on a une vision très concentrée sur uniquement la production industrielle. L'énergie, c'est bien plus que ça.
C'est vrai que l'énergie, elle paraît pour nous, hein, occidentaux, en France par exemple, hein, allant de source, allait de soi. Et on voit qu'actuellement, déjà dans certains pays, il n'y a pas cet accès que nous avons et qu'on a épuisé une bonne partie des ressources. Alors, équité ou pas ?
Alors non, il n'y a pas d'équité. Et c'est peut-être aussi une des vertus du travail qui a été fait par les commissaires. C'est que dans les collections publiques, en règle générale, on peut retrouver assez facilement la vision de l'homme occidental hein, depuis les années 70, parce que sur les artistes masculins occidentaux qui ont été collectionnés. Et là, par les commandes qui ont été faites à des artistes, on a voulu un peu compenser et apporter un autre regard par des minorités ou des femmes ou des gens qui ne sont pas d'origine occidentale, et pour avoir également d'autres regards sur l'énergie, et en tout cas un regard peut-être plus ouvert et engagé d'une manière différente.
C'est une forme d'évolution, sinon de révolution culturelle ?
Alors, en tout cas, c'est une prise de conscience qui se manifeste par une exposition de la diversité des regards et de la diversité des productions.
C'était Sophie Warlop, donc directrice des musées de Dunkerque, Musée des Beaux-Arts et LAC, LAAC. Toujours pour parler de chaleur humaine triennale art et industrie à Dunkerque, donc un événement qui durera jusque début janvier. Je vous propose de retrouver la directrice du FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain Grand Large Hauts-de-France.
Je suis Kérène Détan, directrice du FRAC Grand Large Hauts-de-France à Dunkerque.
Voilà, donc le FRAC est à Dunkerque depuis un bon moment maintenant.
Alors le FRAC, oui, il est né à Lille en 1982 et est arrivé à Dunkerque en 1996. Et depuis 10 ans, il est installé dans ce nouveau bâtiment de Lacaton et Vassal dans le quartier du Grand Large à Dunkerque.
Qu'est-ce que ça change d'être à Dunkerque ?
Alors, bon, moi, j'étais pas là à l'époque, hein, mais à Dunkerque, le FRAC s'inscrit dans un riche écosystème artistique constitué à la fois d'une école d'art, une école supérieure d'art, l'école de Dunkerque-Tourcoing, un musée voisin, le musée du Lac, avec qui nous créons ensemble cette triennale art et industrie, des galeries d'artistes, la plateforme Fructose également, et puis voilà, différents ateliers d'artistes, tout un ensemble d'accueil aussi d'artistes en résidence. Donc ça en fait un écosystème très riche.
Voilà, donc le FRAC est un lieu ressource, puisque le FRAC prête ses œuvres à des lieux qui veulent faire des expositions intéressantes.
Oui, nous avons une collection d'environ 2000 œuvres qui sont destinées à circuler très largement sur le territoire proche dunkerquois et dans toute la région des Hauts-de-France. Des œuvres d'art contemporain, des années 60 à aujourd'hui, de différents champs de la création, la sculpture, la peinture, mais aussi la vidéo, l'installation, le son. Et donc ces œuvres circulent dans des lieux très différents, comme par exemple des écoles, comme par exemple des mairies, des centres d'art également, ou des musées qui font appel à nos collections pour enrichir leur parcours de visite.
Alors c'est vrai que pendant le Covid, vous avez été très actif. Moi j'ai vécu, votre communication de façon très intense alors que d'autres s'étaient arrêtés.
Alors, l'ambition du FRAC, c'est d'être proche des publics en toutes circonstances. Et donc, on a utilisé aussi les réseaux Internet pour pouvoir être présent en proposant des ateliers à distance ou des ateliers à emporter. On était aussi présent sur les ondes radio. Certaines rencontres qui ne pouvaient avoir lieu en public ont été retransmises en direct. Voilà, on a cherché effectivement différentes formes pour toujours garder ce contact avec les publics.
Donc une triennale, ben ça se prépare. 3 ans, c'est pas trop ?
Non, c'est pas trop. On fait déjà le bilan de la première qui s'intitulait Gigantisme et qui a été un succès. Donc ça nous a donné des ailes pour continuer, pour relancer le processus de collaboration avec des collections publiques. Cette année, c'est le Centre Pompidou et à nouveau, pour la deuxième année, le Centre National des Arts Plastiques qui nous prête des œuvres. Ces œuvres sont enrichies d'autres créations d'artistes qui sont des commandes spécifiques. Et donc non, pour créer des nouvelles œuvres, pour penser l'articulation, et donc faire appel à des commissaires indépendantes, ici Anna Collin et Camille Richer sur le thème des énergies, 3 ans, c'est juste bien.
Alors, ces commissaires ont essayé de, j'allais dire, renouveler un petit peu le qui fait quoi dans des lieux d'art, et notamment de donner la place aux femmes.
Oui, tout à fait, aux femmes, aussi aux artistes d'origine différente et en même temps avec une attention accrue à la situation dans laquelle cette exposition est présentée, c'est-à-dire Dunkerque, c'est-à-dire les Hauts-de-France, un carrefour géographique avec ce souhait de se concentrer aussi sur cette aire géographique qui va de la Grande-Bretagne aux Pays-Bas en passant par la Belgique, en favorisant des relations. Elles ont voyagé, elles sont allées faire des visites d'ateliers d'artistes et aujourd'hui certaines des productions sont réalisées par des artistes issus de cette aire géographique du nord de l'Europe.
Alors c'est vrai, un port, on a tendance à imaginer qu'on est en lien, sinon en relation avec le monde entier. Est-ce que cette perspective vous donne des portes ouvertes sur le monde ?
Alors oui, en fait, la thématique de cette triennale art et industrie, c'est une thématique avec un... On regarde en fait une situation particulière ici à Dunkerque, mais c'est aussi une manière de communiquer et de s'intéresser aussi à comment ça se passe ailleurs. Les artistes qui sont présentés, qui sont aussi dans les collections, montrent des situations très, très variées aux quatre coins du monde. Donc il y a une vraie volonté d'ouverture à travers cette triennale.
Voilà, donc un monde en questionnement, alors à Dunkerque, mais pas seulement.
Oui, on a invité pour cette triennale les deux commissaires d'exposition à s'interroger sur les énergies. C'est un sujet qui est précis, qui est actuel, avec les problématiques écologiques liées à cette ressource, comment on l'extrait des sols, liée à la pollution aussi. Enfin, donc il y a une transformation de l'atmosphère et des paysages et en même temps un besoin accru de ces énergies et ces problématiques-là sont des problématiques évidentes et très fortes qu'on perçoit au quotidien chacun à Dunkerque et ailleurs. Et donc l'approche de ces commissaires est intéressante parce qu'elle nous invite à considérer toute la diversité de ces sources d'énergie, des énergies fossiles, des énergies renouvelables, la question aussi du nucléaire. Et en même temps, elles l'élargissent aussi à une compréhension des ressources énergétiques qui sont liées à l'humain, comment le corps humain a aussi son énergie propre, comment aussi la spiritualité peut aussi être une source d'énergie et d'espoir. Et donc ce thème-là s'ouvre vraiment à un champ très très vaste qui à la fois montre les questions que pose aujourd'hui ce besoin croissant et incessant d'énergie et les difficultés liées à leurs usages et mésusages. Donc on s'est emparé du sujet.
C'était Kéren Deton, donc directrice du FRAC Grand Large Hauts-de-France à Dunkerque. Place aux artistes maintenant. On va découvrir, enfin vous allez découvrir, Forêt Sonore. C'est une œuvre, une installation gigantesque présentée par EEEE, un collectif. Bon, ils sont deux dans le collectif. Il y a Alexis Costeux et il y a également Mathurin Van Egg. On les retrouve pour cette présentation de cette œuvre gigantesque et très sonore, vous allez l'entendre, donc qui a lieu au FRAC, donc à voir et à entendre, jusqu'en janvier 2024.
c'est Mathurin, Vanneg et Alexis Coster. On forme le duo 4E et on est issu de l'école de Dunkerque-Tourcoing, de l'ESA. Et on travaille principalement sur des notions de patrimoine, de tradition, de folklore, de récits, de sons et du travail de la main. Cette œuvre qui s'appelle Sous-bois, on l'a conçue à deux, puis maintenant à trois, puisqu'il y a eu une création sonore réalisée particulièrement pour la Triennale. Et cette œuvre, elle représente une partie d'un récit qui s'appelle Galustan, qui a été écrit par Elias Jesus, qui est un explorateur archéologue qui est parti à la découverte de l'île du Galustan, qui se trouvait dans la mer du Nord. Et lors de son voyage, il s'est arrêté pour travailler sur sa barque, puisqu'elle était un peu cassée, donc il ne pouvait plus avancer. Et il s'est arrêté dans un sous-bois, près de Cerque, de la ville de Cerque. Et il s'est adossé un tas de bois, un ster de bois, et il s'est endormi, parce qu'il était très fatigué. Et pendant ce sommeil, il a rêvé, il a eu une vision de ce qu'était cet espace dans lequel il se trouvait, qui était un espace industriel, avec des sons, des vestiges. Et maintenant, la nature luxuriante qui l'entoure. Et voilà, c'est toutes ces visions qui se mélangent. Et c'est une œuvre onirique. Ouais. C'est une vision poétique, en fait, de ce passage.
Donc moi, c'est Mathurin Vanneg. J'ai travaillé aussi avec Alexis. Et donc, c'est aussi lié à des rencontres. Donc en fait, ça a été primordial, cette rencontre avec les facteurs d'orgue de l'entreprise Bernard Coget, avec qui, en fait, on a... vraiment essayer d'extraire finalement cet artisanat d'exception afin de proposer autre chose qui est plus de l'ordre de l'installation sonore, bien évidemment, qui reprend certains codes de la facture d'orgue, mais qui n'est pas vraiment de la facture d'orgue pure et dure parce que ça demande quand même 15 années d'expérience dans ce métier-là pour prétendre avoir ce savoir-faire et cet or dans les mains. Mais ça a été pour nous une révélation que d'être vraiment en immersion dans leur atelier, de travailler avec eux dans les églises, etc., afin de pouvoir justement valoriser tous ces tuyaux qui n'étaient pas destinés, qui n'étaient plus vraiment destinés à sonner, et que nous, on puisse vraiment les utiliser et les mettre en valeur, quoi.
Donc, dans cette installation, on a une sonorisation. Hein, donc, oui. Il y a une partie peut-être qui est déjà préétablie et puis une partie sur laquelle vous intervenez, sur les tuyaux, on va dire, comme un facteur d'orgue. Hein.
Alors, oui, on n'harmonise pas, on ne réaccorde pas les tuyaux, étant donné que là, ils sont accordés. Mais c'était l'intention dans cette triennale, c'était vraiment de la rendre vivante sans forcément notre présence, parce qu'il suffit aussi d'activer la machine. Et du coup, le travail avec Thibault Lelot qui a été mis en place, c'était justement de la rendre autonome, que le spectateur puisse apprécier dans son ensemble et au travers du son.
Donc ce son, on ressent assez fortement les basses, oui. On est imprégné, on va dire, par ce son, il nous pénètre d'une certaine manière. Est-ce que votre œuvre a pour objet d'être pénétrante et quel est le message ?
Je dirais que... c'est une manière d'amener une petite partie, en tout cas de ce métier, de ce que peut procurer un tuyau d'orgue, en fait. Ces basses qui sont très profondes, et vraiment de proposer justement aux spectateurs de pouvoir s'évader au travers de ces sons, ce qu'on peut appeler bourdons, en fait. Voilà.
Donc on a un genre de forêt, on va dire, hein, symbolique. Bon, il y a des arbres peut-être petits, mais bon, ils sont pas en bonne santé là. Qu'est-ce qui leur est arrivé ?
C'est en fait donc dans cette idée de triennale. Donc évidemment, les arbres, c'est très compliqué de faire tenir du vivant dans un espace comme celui-ci fermé pendant 7 mois. Et donc toujours dans cette idée de valorisation, tous ces végétaux étaient destinés justement à être brûlés. Et donc c'est une manière pour nous de les faire vivre encore une fois avant qu'ils soient détruits, quoi.
Après, nous aussi, notre démarche, si on a l'occasion, par exemple, de représenter cette installation, c'est de toujours travailler avec les territoires, avec les entreprises locales, justement, de récupérer, en fait, les arbres qui sont voués à la destruction et de leur donner une deuxième vie, en fait. Pour nous, ça pourrait être possible de créer des arbres et de toujours les emballer, mais ça demande aussi... ça demande du bois aussi, pour mettre du bois dans du bois, pour le mettre les faire voyager. Et voilà, l'idée, c'est de aussi avoir une forme d'écologie de moyens et de se nourrir et de profiter des entreprises. Enfin, profiter, oui.
Non, de les rencontrer, plutôt. C'est-à-dire que vraiment, il y a aussi cette idée, ce rapport humain et ce facteur qui est important, c'est la rencontre, l'échange, et comment on peut, en fonction du lieu, mettre en place une scénographie et imaginer, toujours dans cette idée de représentation du sous-bois par rapport à ce récit, mais voilà, d'adapter, en fonction des moyens et des matériaux qu'on a, une scénographie et un décor.
Donc ici, on est à Dunkerque, au FRAC. Vous avez été formé à l'ESA de Dunkerque, c'est
de
ça
Tourcoing.
De Tourcoing, d'accord. Et donc, vous avez, on va dire, exploité votre inspiration de ce lieu ici, le port de Dunkerque et l'environnement. Est-ce que c'est transposable, par exemple, au musée du Louvre-Lens? Il y a un endroit, vous savez, avec une grande verrière. Je verrais très bien ça adapté là, hein.
Oui, bien sûr, c'est une œuvre qui est adaptable justement à plein d'endroits, puisque justement elle s'équilibre aussi à l'endroit où elle se trouve. Donc il y a des éléments qui vont intervenir selon le territoire, en fait, puisque les arbres vont pas être les mêmes, les branches vont pas être les mêmes, les copeaux ne vont pas être
et
les mêmes.
L'acoustique ne sera jamais la même en fonction. Et là, c'est quand même pour nous une belle expérience d'être dans ce volume pareil qui peut s'apparenter à une cathédrale.
C'est vrai que le lieu résonne bien, on va dire, par rapport aux instruments que vous avez installés ici. On sent que l'espace est adapté à ce que vous proposez, ou réciproquement.
Alors, pour remplir ce genre de volume en termes sonores, c'est quand même assez compliqué. Donc, parce que nous, on est quand même restreint dans la taille des tuyaux qu'on a récupérés. Donc c'est jamais vraiment évident, et puis parfois on peut vraiment être surpris, un lieu tout petit confiné avec une belle acoustique, et puis en fait c'est pas forcément ce qu'on a voulu, mais là on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment prenant et profond.
Voilà, sur Radio Campus 106.6, je vous laisse apprécier cette musique assez extraordinaire qui nous enveloppe au FRAC actuellement jusqu'au mois de janvier. Merci donc à EEEE, ce groupe composé d'Alexis Costeux et Mathurin Van Egg. Forêt sonore. À Dunkerque, dans le cadre de cette triennale art contemporain, eh bien, j'ai rencontré une artiste qui s'appelle Eden Tinto Collins. Et un moment très intéressant d'échange avec, cette double culture qui nous inspirait, et puis les problématiques du monde, voir comment, l'espace d'un midi, on peut s'emparer aussi, toujours, de ça.
Collins.
Donc, vous prouvez que l'humour est possible dans les œuvres contemporaines.
Oui, je crois que l'humour, effectivement, est même nécessaire au quotidien. On doit faire face à de plus en plus d'absurdités, alors pourquoi pas dans les œuvres aussi. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui fait sens de voir les choses comme ça.
Donc, votre travail, votre spécialité, c'est la vidéo ?
Oui, effectivement, je viens plutôt de l'univers vidéo, et là, je réfléchis beaucoup en ce moment à des histoires de résolution, dans tous les sens du terme, aussi bien poétique que politique. Et du coup, il y a une transition, on va dire, qui s'opère aussi avec des personnes et des artistes, parce que la vidéo, on travaille jamais seul, en fait, c'est du travail d'équipe. Et du coup, on se rencontre là de plus en plus avec les réseaux du cinéma. Voilà.
Donc votre œuvre, c'est presque une bande dessinée, c'est-à-dire des plans. Chaque plan, c'est une petite histoire et à chaque fois, c'est un univers un petit peu différent qui s'assemble pour avoir une trame.
Oui, tout à fait. Alors, c'est les aventures de Jane Dark. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du comics, de la BD. Et tout s'assemble, on espère.
Alors, pourquoi Jane Dark?
Alors, je crois que c'est justement pour... apporter une réponse très drôle, tout simplement. La dernière fois que j'ai entendu crier Jane Dark, c'était par un courant politique d'extrême droite, tout simplement Jean-Marie Le Pen, quoi. Et ça m'a fait beaucoup rire, parce que je me suis demandé si Jane Dark, du coup, les esprits revenaient et que c'était une personne qui me ressemblait, qu'est-ce que ça allait créer comme... comme impact, et du coup j'ai voulu pousser cette expérience dans de la vidéo. C'est un peu le point de départ.
Alors, si vous étiez une Jeanne d'Arc contemporaine, vous défendriez qui, quoi, pour qui, pourquoi?
Oh waouh, c'est tout un programme que j'ai pas encore tout à fait résolu. Donc l'idée, je crois que c'est aussi de développer une grille de réponses peut-être, mais surtout de lecture à travers ces vidéos pour faire un tour de France et rencontrer des personnes. Et justement se rencontrer, je crois que c'est un peu la première phase avant de se positionner. Ce serait un peu hâtif et peut-être très prétentieux de savoir d'emblée qui est bon ou pas. Et il y a tellement de complexité que du coup, le travail d'humour et de rencontre est d'abord au programme.
Donc c'est un travail que vous avez réalisé où et pourquoi vous êtes à Dunkerque? Comment ça s'est passé?
Alors, l'invitation pour participer à la Triennale de Dunkerque s'est faite via Camille Richet et Anna Collin avec Henriette Guillerot. Et pourquoi? C'est la question des énergies, je crois, qui est au centre et de la conscience énergétique de cette proposition de Triennale. Et du coup, le travail donc de cette série, A Pinch of Cola, figure dans l'un des chapitres, qui est aussi une absence de chapitre, mais c'est peut-être parce que c'est une activation de tous les sens de l'énergie, de la conscience qui s'opère. Et j'ai l'impression que ça peut aussi être un espace de recueil, de repos, de rencontre, que de visiter l'installation.
Alors, c'est vrai qu'on a quelques générations d'écart et la notion d'énergie à mon époque est vraiment très différente. Peut-être je vis encore un peu sur ce nuage-là, que l'énergie pouvait amener un progrès.
Je crois que l'énergie, malgré notre distance d'âge et d'expérience, doit toujours être considérée comme quelque chose... d'ambivalent, enfin de polyvoque en fait, parce que y a, c'est jamais pour moi que dans un sens. Et du coup, l'idée c'est de faire ce constat peut-être, en tout cas, et de voir aussi ce que progresser veut dire. Enfin, moi c'est surtout l'idée du progrès qui irait que dans un sens que je remets en question.
Effectivement, la notion de progrès, on avait... à un moment donné, une idée d'amélioration des choses. Là, on est plutôt sur un progrès qui n'est plus une progression pour l'homme et pour la nature.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, on traverse une phase de transition dans tous les sens du terme, ce qui est une nouvelle... un nouveau chapitre de la progression, parce que finalement quand on essaye de prendre de la distance, on se rend compte que y a une planète dans laquelle on est, et en fait on est toujours en déplacement dans l'univers, dans la galaxie, etc. Donc j'ai l'impression qu'on progresse quand même et qu'on doit juste se rencontrer et voir un peu quelles vont être les prochaines stratégies de progression. pour que ça dure le plus longtemps possible.
Alors, l'énergie, c'est peut-être ce qui a donné aux pays riches la possibilité de l'être encore davantage, creuser l'écart avec des pays pauvres. Actuellement, on essaye de restreindre tout le monde dans la consommation. Et est-ce que ce n'est pas quelque part injuste pour les pays qui accéderaient éventuellement, les pays pauvres, à une amélioration de leur vie, puisque là, on contraint tout le monde finalement à arrêter de profiter des énergies, et encore plus ces pays qui se retrouvent avec un écart considérable dont ils ne sortiront jamais finalement.
C'est intéressant d'entendre peut-être un peu votre positionnement sur ces questions-là. Effectivement, dans la série aussi A Pinch of Cola, il est question d'aller vers cette idée de double conscience et du coup de naviguer entre plusieurs positionnements liés certainement à mon expérience aussi justement de double culture et de peut-être d'un rapport à l'énergie en fait qui est tout simplement différent. J'ai l'impression que on peut espérer de voir aussi des nouvelles possibilités inventions en fait qui demanderaient de réfléchir à l'énergie autrement et que jusqu'alors on n'avait pas vu mis en avant par ces espaces parce que peut-être que le monde se construisait autrement avec justement des relations très très dures et voilà, dont il faut prendre conscience avant de justement faire des choix. Parce que l'énergie, elle a toujours été là. J'ai l'impression que le continent, les continents dont on extrait beaucoup de matière s'en rendent compte et l'ont toujours su. Mais là, il est peut-être temps, pas de remettre les pendules à l'heure, mais il y a quelque chose en fait de l'ordre d'une transition. Donc les pôles, lumineux qui guide change et c'est pas pour le pire, non, je crois pas. C'est un peu comme cette histoire du grizzly qui est une nouvelle espèce en fait qui arrive parce que la transition énergétique a commencé depuis très longtemps et juste il y a plein de manières d'entendre cette sonnerie d'alarme et donc d'y répondre aussi. Donc je ne sais pas si effectivement là les plus riches veulent garder cette nomenclature qui leur permet de peut-être le rester, mais j'ai l'impression qu'aussi on peut voir arriver une dévalorisation de ce que était jusqu'alors la richesse. Et ça fait appel au libre arbitre. Hein. J'ai l'impression qu'on peut quand même, à un moment, décider ou pas de ce qu'on veut. Et du coup, il y a toutes ces notions très complexes qu'il faut essayer de synthétiser, de faire passer avec beaucoup d'humour. C'est, en tout cas, c'est ma recette. Je ne sais pas si elle marche. J'espère que...
Alors, c'est vrai que la publicité a beaucoup... fait avancer, alors ce qu'on a appelé le progrès, mais en fait un peu un leurre aussi, hein, donner des habitudes de consommation surdimensionnées, on va dire ça comme ça. Vous utilisez aussi un média, mais pas pour en faire de la publicité, mais pour faire réfléchir, c'est quand même autre chose.
Oui, c'est vrai, merci pour cette question très délicate, parce que je parle justement d'un positionnement hyper média, parce que je crois que il s'agit d'avoir conscience de la puissance des médias et d'être capable d'entrer dedans, d'avoir une position donc médiatique et de pas choisir de juste faire de la pub. C'est intéressant. C'est une façon de peut-être, comment on appelle ça, faire décroître l'énergie du média en elle-même, mais pour faire réfléchir, donc pour ouvrir des espaces de relations et d'échanges.
Voilà, donc génération question, il y aura une génération solution ?
Je ne sais pas s'il y aura une génération solution. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps un peu les deux, parce que ça fait partie de l'être humain. Je crois que oui.
Voilà, un échange donc avec Eden Tinto Collins au FRAC la semaine dernière. Très intéressant cet échange. Enfin, moi, j'ai franchement ressenti quelqu'un de passionnant et puis de passionné. Donc, à vous de découvrir son travail au FRAC jusqu'à janvier, vous avez le temps. Mais pourquoi pas, si vous passez sur la côte, là, c'est le moment. Hein. Il y a le port qui vous attend, le sable chaud. Dunkerque, chaleur humaine.